France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h21. Il n'est pas forcément nécessaire de construire de nouvelles maisons, de nouveaux immeubles pour résoudre la crise du logement. Il existe des solutions sans avoir à bétonner les sols. On peut concilier écologie, urbanisme et justice sociale. C'est ce que nous montre une étude menée conjointement par deux fondations dont je reçois les représentants ce matin. Manuel Demergue, vous, c'est la Fondation Abbé Pierre. Vous êtes directeur des études. Et Thomas Utayakuma, vous êtes directeur des programmes et du plaidoyer de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Bonjour messieurs.
Bonjour.
C'est une démarche inédite de vos deux fondations. Pourquoi ce travail commun, Manuel Demergue? Qu'est-ce que ça apporte de neuf sur ces problématiques?
Il fallait avoir un regard à deux, une association écologiste et une association comme la nôtre qui lutte contre le mal-logement, pour s'attaquer à un sujet, l'étalement urbain, le zéro artificialisation nette, pour justement réussir à préserver la biodiversité sans aggraver la crise du logement, réussir à produire des logements supplémentaires sans aller bétonner encore et encore des centaines de milliers d'hectares. Et pour ça, c'est vrai que le plus efficace, c'est de travailler à deux, sinon chacun est un peu dans son silo, dans son couloir. Il ne faut pas construire d'un côté pour FNH ou moins construire. Et la Fondation Pierre, c'est vrai, il faut construire des logements partout, comme ça on va résoudre la crise du logement. Et en fait, il faut se parler pour trouver des solutions.
Et ce qui est intéressant, vous avez évoqué la loi ZAN, zéro artificialisation nette, c'est que finalement, vous nous dites que cette contrainte environnementale est un atout. Ça, c'est la nouveauté ou la réflexion un peu surprenante de votre étude, Thomas Utayakuma.
Oui, c'est un atout parce que déjà, dans la loi Climat et Résilience, il y a eu quelque chose d'assez positif, c'est que la lutte contre l'artificialisation des sols, elle est rentrée dans cette loi. Et dans cette loi, on a pu définir ce qu'était l'artificialisation, c'est-à-dire l'étalement urbain qui abîme les sols et qui va dégrader un peu les propriétés écologiques de ces sols. Et cette artificialisation-là, aujourd'hui, comme le disait Manuel, elle a un effet sur la biodiversité, puisque c'est l'une des premières causes de l'effondrement de la biodiversité, mais là aussi un effet très important sur le volet social. Et il faut savoir que dans notre étude, pourquoi en fait on s'est concentré sur le logement, c'est parce que le logement est responsable de 2/3 de l'artificialisation des sols, et donc c'est un sujet qu'il va falloir prendre à bras-le-corps.
Et en plus, c'est pas les endroits où on construit le plus qu'il y a le moins de problèmes de logement.
Oui, tout à fait. Au-delà de cette triple urgence climatique, écologique et puis aussi sociale, effectivement, il va falloir aussi créer des logements sans construire. Alors, et c'est ça aussi l'une des nouveautés de ce rapport, enfin en tout cas ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est ça.
Et vous émettez d'ailleurs 40 recommandations, on ne va pas toutes les détailler, je vais en prendre quelques-unes dans ma voix. Vous dites par exemple qu'il faut récupérer des logements vides, ça c'est une solution qu'on a déjà évoquée, transformer les bureaux vides en logements. Vous voulez aussi vous attaquer aux résidences secondaires, aux meublés touristiques. Et puis vous souhaitez intensifier ce que vous dites, ce que vous appelez les espaces urbains, produire de nouveaux logements, donc sans artificialiser. Vous appelez ça de la densification. Douce. C'est quoi la densification douce, Manuel Demergue?
Oui, effectivement, si on veut qu'il y ait plus de personnes qui aient un logement sans aller bétonner à la périphérie des villes, ça veut dire qu'il faut un peu plus de densité. La densité, ça peut faire un peu peur parce qu'on a vu qu'il y a eu des réactions contre la densité, notamment pendant le Covid, parce que les gens avaient envie d'espace, de respiration, etc.
Oui, on nous dit qu'il faut faire plus d'espace vert dans les villes.
Absolument. Et en fait, on peut faire plus d'espace vert dans les villes avec un peu plus de densité à certains endroits et un peu moins à d'autres. Et donc, il faut cette densification douce. Ça peut passer. C'est pas ce qu'on a un peu en tête de faire des bars, des tours, des grands ensembles, ça c'est
toujours
fini.
Toujours plus haut.
Voilà, ça c'est fini. Et d'ailleurs, c'est pas très dense en général, les hautes tours. Ce qui est assez dense, c'est le plus dense, c'est l'habitat haussmannien, par exemple, parisien. On va pas faire de l'habitat haussmannien partout, voilà. Mais il y a plein de villes moyennes où on peut rajouter un étage, c'est la densification verticale, au bureau, au logement, sans que ça pose de problèmes très compliqués. La ville de Lyon, par exemple, s'en empare beaucoup ces derniers temps. Et puis on peut faire de la densification douce, horizontale, construire parfois sur une même parcelle, rajouter un logement. Ça permet de financer parfois les travaux de rénovation énergétique du propriétaire de la parcelle, l'adaptation au handicap, etc. Et donc, ce n'est pas des grandes constructions très impressionnantes. Ça ne change pas fondamentalement le visage de la ville, mais ça permet d'habiter à un peu plus nombreux. Et si on fait un peu plus de densité sur certaines parcelles, ça permet d'avoir des espaces verts public dans d'autres. En fait, le ZAN, pour que ce soit dans la justice sociale, ça implique de partager des espaces, des mètres carrés habitables, et partager aussi des espaces verts.
Et toujours dans cette notion de partage, vous évoquez la problématique spécifique des personnes âgées qui vivent seules, souvent dans une grande, enfin souvent, ça arrive qu'elles vivent seules dans une grande maison. Et bah, vous dites, bah, pourquoi elles ne partageraient pas finalement leur maison ?
Oui, alors c'est une option, évidemment. C'est qu'on voit bien qu'il y a d'un côté, chez les jeunes ménages, les jeunes familles, une suroccupation très forte avec des conséquences sociales très graves. Et de l'autre côté, une part de la population beaucoup plus importante qui est en sous-peuplement. Et ça, c'est simplement démographique. Hein. Quand vos enfants sont partis, vous vivez à deux ou seuls, très souvent, dans des grandes maisons. Donc il faut proposer, l'idée n'est pas d'imposer des choses, hein. Proposer à des personnes âgées un parcours résidentiel, soit pour partager un grand logement, soit pour déménager, pour se rapprocher des services publics, pour partager également peut-être de l'habitat participatif, intergénérationnel, etc. Et ça, ça permet de dégager des mètres carrés.
Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de solutions possibles et il faut les additionner, ces solutions, parce qu'il y a quand même plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées ou sans logement en France. Et puis bien sûr, quand on ne peut pas faire autrement que de construire en artificialisation des sols, autant que ce soit des logements collectifs et des logements sociaux. Ça aussi, c'est un point important de votre rapport, Thomas Utayakumar.
Oui, je rebondissais sur ce que disait Manuel, parce qu'il faut que les auditeurs aient un peu en tête les ordres de grandeur. D'ici 2031, il nous reste 100 000 hectares à artificialiser. Et dans ces 100 000 hectares, on va construire beaucoup de choses.
Il nous reste 100 000 hectares ?
Alors en fait, dans la loi climat résilience que j'évoquais tout à l'heure, il va falloir diviser par deux le rythme d'artificialisation d'ici 2031 par rapport aux 10 années précédentes. Et divisé par deux ce rythme d'artificialisation, il va nous rester donc un quota d'artificialisation, c'est les fameux 100 000 hectares. Et dans ces 100 000 hectares, on va retrouver des infrastructures, du logement, etc. Et donc le logement, il prend une place très importante, puisque aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est deux tiers de l'artificialisation. Et au-delà de la densification, il va falloir aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire créer des logements sans construire, c'est-à-dire aller voir un peu ce qui se passe du côté des logements vacants, des résidences secondaires. Et lorsqu'on additionne les deux, c'est près de 18% du parc de logements. Et à la fin, les résidences, enfin le parcours résidentiel qu'évoquait Manuel, c'est aussi le parcours résidentiel pour des seniors. Et ça, c'est les logements sous-occupés qui aujourd'hui représentent plus de 8 millions de logements en France. Et donc, c'est un sujet qui est très délicat, très sensible,
très
évidemment, très politique.
Mais juridique aussi, parce qu'on ne peut pas exproprier comme ça des personnes.
Alors là, il ne s'agirait pas d'exproprier, il s'agirait justement d'avoir des parcours, comme le disait Manuel, c'est-à-dire de béguinage, d'habitat participatif, qui puissent permettre aussi à des seniors, qui aujourd'hui ne peuvent pas entretenir correctement leur logement, de trouver une solution alternative qui réponde à leurs besoins, puisque aujourd'hui, des escaliers, une salle de bain, ce n'est pas forcément adapté, ça coûte très cher d'être dans des grandes maisons individuelles. Il faut que les seniors, aujourd'hui, aient la solution de trouver des alternatives, et les collectivités sont là pour ça.
Voilà, 40 recommandations 138 pages pour ce rapport commun entre vos deux fondations, Fondation Abbé Pierre pour vous, Manuel Domergue, et Fondation pour la Nature et l'Homme pour vous, Thomas Utayakumar. Merci d'être venu ce matin sur France Inter.